Bonjour, bienvenue à ce nouveau point presse du 69e Festival d'Avignon. Tout au long de ce festival, des rendez-vous au Cloître Saint-Louis et sur franceculture.fr qui ont été imaginés pour permettre une porte d'entrée dans l'univers des artistes qui présentent des spectacles cette année au festival. Le point presse de ce jour va nous permettre de parler de deux spectacles avec trois intervenants. Tout à l'heure, Gaël Bourges viendra nous parler de À mon seul désir. Et puis tout de suite avec moi, Marguerite Borda et Pierre Meunier pour Forbidden dit Sport Jersey. On voit déjà que le mélange des langues se fait entendre. Ce spectacle est indiqué comme étant d'après Algorithme éponyme de Babouyek. Babouyek, autiste sans parole, c'est par elle qu'on va commencer. Elle s'appelle Hélène Nicolas, c'est une jeune femme. Autiste diagnostiquée déficitaire à 80%, jamais scolarisée. Elle dit qu'elle n'a jamais appris à lire, à écrire, à parler. Elle a pourtant réussi, après 20 ans de silence, à écrire à l'aide de lettres en carton qu'elle dispose sur une page blanche. Pierre Meunier, vous aviez d'ailleurs lu pour France Culture un extrait de Raison et Acte dans la douleur du silence. C'était l'hiver dernier. Ça avait attiré mon oreille. C'était un livre qui est publié chez Christophe Chaumont. À quand remonte votre rencontre avec cette écriture de Babouyek ?
Il y a peut-être 4 ans, je travaillais sur un spectacle précédent qui s'appelait Du fond des gorges, autour de la question du langage. Et donc, il m'avait paru intéressant d'aller justement dans un endroit pour jeunes autistes, de gens privés, pour la plupart de la parole, justement. Et j'avais passé là 2-3 jours. Et j'avais donc rencontré Hélène et sa mère, Véronique, et qui m'avait transmis ses premiers écrits. Je suis tombé littéralement à la renverse, comme tous ceux qui la lisent. Et j'ai rencontré Hélène, on a commencé à échanger, donc avec ses petites lettres, au travers de sa manière à elle, quoi, de communiquer. Et puis, il s'est instauré comme ça un échange. Elles sont venues travailler au Cube, à Hérisson, là, dans ce lieu qui est la base de la compagnie. Et puis, elle m'a envoyé des textes, des ébauches, jusqu'à la version définitive d'Algorithme éponyme, qui m'a tout d'un coup inspiré le désir de me mettre au travail, à partir de ça, quoi. Et donc, ce que j'ai proposé à Marguerite Borda de nous lancer, tous les deux, dans cette aventure qui va pas de soi, enfin qui n'allait vraiment pas de soi. C'est tellement, ça n'est pas un texte de théâtre du tout. C'est une sorte de long poème avec une où Babouyek se livre sa une pensée très 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 affûtée, très très puissante, je trouve, très déconcertante par endroits, mais à la fois aussi une lucidité politique, un humour décapant, enfin quelque chose d'absolument singulier, quoi. Avec cette question qui demeure d'ailleurs toujours, qu'allons-nous faire de ça ? Qu'allons-nous faire de ça sur un plateau, hein ? Mais le défi était très, très excitant et pas gratuit, parce que le fond, enfin, ce dont parle Babouyek, moi, c'est des choses des questions autour de la limite, autour de la norme à l'œuvre, autour de l'écrasement de l'imaginaire. C'est pour moi, évidemment, principal, quoi, dans l'inquiétude. L'inquiétude que je peux ressentir à des tas de niveaux différents, et puis notre propension finalement à nous couler dans des modèles, à aspirer à ressembler à, qui nous guettent à beaucoup d'endroits dans notre vie, dans nos existences, et qui fait des ravages, je pense, qui nous prive énormément de nos capacités, de nos audaces, de notre puissance. De déploiement, Hélène, elle pose ça magnifiquement, quoi.
Alors, qu'alliez-vous faire de ce texte ? Alors, la réponse est sans doute surprenante. Enfin, elle m'a surpris. Moi, hier, j'ai eu la chance de me glisser dans la générale de ce spectacle qui débute aujourd'hui. Peut-être avant de venir vraiment à cela, peut-être dire que Marguerite Borda travaille avec la belle Meunière, avec vous, depuis une quinzaine d'années maintenant, comme scénographe, costumière, créatrice de marionnettes, de masques, enfin. Et puis que là, vous avez co-signer ensemble ce spectacle. Peut-être parler de la façon dont vous travaillez ensemble avec Claire Meunier, cette volonté de signer maintenant ensemble les spectacles, Marguerite Borda.
Oui, c'est une rencontre qui date d'il y a 15 ans, qui s'est faite de façon très naturelle. Et le fait qu'on signe ce spectacle-là cette année ensemble, ça s'est posé un peu comme une espèce d'évidence aussi parce que il y avait un très fort désir de la part de Pierre et moi de fabriquer une forme qui est aussi un petit peu entre le théâtre et les arts plastiques. On a énormément parlé d'artistes plasticiens, on a énormément on a retrouvé les œuvres de Tinguely, de Saint-Phal, de Calder, des vieilles histoires d'amour comme ça qu'on a l'un et l'autre. On s'est retrouvé dans ce plaisir et dans ce partage. Et c'est vrai qu'Hélène nous a... son texte était comme une espèce d'invitation à aller vers autre chose. Alors moi, c'est vrai que je suis scénographe. Et elle m'a fait me remettre très très fortement en question sur ce que je fais là, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je fais au théâtre, qu'est-ce que je fabrique, pourquoi on fait du théâtre, à quoi ça sert tout ça, et puis comment je le fais, et puis aussi à quoi moi en tant que conceptrice, créatrice, à quoi je me conforme aussi. Et je pense que c'est très important de se poser régulièrement la question, quoi, parce qu'on est tout le temps... sollicité, on nous demande de rentrer dans des cadres, hein, dans des cases, même quand on est des artistes, parce qu'il y a des budgets, parce qu'il y a des normes de sécurité, parce qu'il y a des équipes, parce qu'il y a des programmateurs, parce qu'il y a des gens qui s'attendent à voir un certain théâtre. Et là, je crois que Pierre et moi, on a eu envie de faire aucune concession. Voilà, ça c'était très important. Et être à la hauteur de ce que nous proposait Hélène, de sa liberté, sa radicalité. Et je suis extrêmement fière et heureuse d'être allée au bout de ce geste-là. J'espère qu'on en fera d'autres avec Pierre.
Alors cette liberté, cette radicalité, elle fait aussi penser à celle de ceux qu'on appelle les tenants de l'art brut. Et ce n'est pas du tout péjoratif quand j'emploie ce mot. On voit la place très importante maintenant que... l'art brut, c'est comme ça qu'on l'appelle hein, chez nous, prend dans le monde des arts plastiques une très grande valorisation parce que ça amène une liberté et une force tout à fait surprenante qui fait bouger les lignes, les regards, les choses un peu trop établies. Mm-hmm. Comment est-ce que vous, cette rencontre avec Babouillec, avec cette écriture, elle vous a fait bouger, Pierre Meunier?
Par contamination, on peut dire, par contagion. Parce que Hélène, enfin Babouillec est justement une personne qui témoigne, elle témoigne depuis un endroit le sien, hein, où elle a une distance certaine avec tous nos agissements, avec toutes nos manigances, avec toutes nos ruses et nos contorsions, quoi, pour appartenir. Hein, et donc, quand je dis par contagion, parce que c'est cette lucidité-là qui est réveillante, qui est réveillante et qui est venue voilà, résonner avec des questions donc, qui sont là toujours un peu en suspens. Mais c'est sa parole, son écriture, elle est motrice, elle est en mouvement parce qu'elle est aussi enthousiaste, quoi. Elle est enthousiaste, elle est à l'aube, je pense, d'une magnifique... Si elle poursuit ça, d'une magnifique carrière d'auteur, d'écrivain, quoi. Et elle a une énergie, il y a aussi une énergie de vie, quoi, qui est considérable, qui est très belle, et qui pulvérise, qui pulvérise ce qui peut nous freiner justement dans une manière d'être soi, quoi, d'accepter finalement. De s'accepter peut-être davantage dans une singularité, et quel qu'en soit le prix à payer, quoi.
Mais on parle d'écriture, alors revenons-y, parce que dans le spectacle, sans trop en dévoiler, on peut dire que de l'écriture, il reste peu. Est-ce que vous avez dû, Marguerite Borda, Pierre Meunier, enlever Est-ce qu'il a fallu que vous fassiez contaminer vous par l'écriture pour en trouver, pour y trouver votre propre écriture de plateau ?
Il n'a jamais été question de monter le texte de Babouyek. Aujourd'hui, on a trouvé le bon mot, je crois, avec Pierre, on dit que c'est un écho théâtral à un texte, ce que je trouve très juste. En tout cas, je crois que c'est la meilleure formule. Il n'a jamais été question au départ de dire le texte. On voulait s'imprégner du texte. Et puis, il y a quand même des passages qui sont dits, notamment par Pierre, et qui sont pour nous très importants. Voilà.
Mais justement, Pierre Meunier, comment est-ce qu'on se laisse envahir ou habiter par une langue aussi singulière que celle de Babouyek ?
Oui, ce n'est pas facile. C'est toujours chaque soir, c'est pour moi vraiment un défi, quoi, parce que l'écueil d'un sérieux trop grand ou d'un respect trop grand et peut vite transformer cette parole, cette prise de parole, disons, en quelque chose d'ennuyeux et pontifiant et hermétique. C'est pas pour moi, dirait le spectateur. C'est oulala, ça vole trop haut. Oulala, c'est pour des initiés, ça. Mais pas du tout, pas du tout. Et il faut, je pense, accepter de ne pas comprendre, dans le sens immédiatement, de ne pas décrypter les mots de Babouyek, les laisser agir comme une matière, voilà, qui va infuser quelque chose qui peut infuser. Et je pense que s'il y a une détente comme ça du spectateur, c'est une ouverture à de plus une perception globale qu'à une activation cérébrale, une résolution cérébrale de ce qu'on est en train de voir, quoi, qui est totalement réductrice par rapport à ce qu'on propose, évidemment.
Il m'a semblé que, alors, si vous prenez très au sérieux cette écriture, vous ne vous prenez pas beaucoup au sérieux. Enfin, le risque du sérieux vous guette assez peu. Hein. Celles qui connaissent déjà votre travail le savent, mais celles et ceux qui connaissent votre travail le savent, mais ils vont le voir encore davantage, il me semble, avec ce nouveau spectacle. Pour autant, il y a beaucoup de spectacles, je ne parle pas seulement d'Avignon, qui jouent avec un discours qui s'approche d'une certaine conception philosophique ou sociologique et qui traite peut-être de questions un peu métaphysiques en mettant une distance qui se voudrait ironique mais qui quand même se prennent très au sérieux. L'esprit de sérieux, c'est compliqué d'être à bonne distance. Parce que oui, c'est sérieux ce dont vous vous emparez, mais on peut le reprendre. Si on veut vraiment, je pense qu'il nous atteigne, nous, spectateurs, il faut effectivement être dans une sorte de lâcher prise.
Oui, et c'est toujours ce fil entre le grave et le léger qui moi, je poursuis, enfin, que j'espère, sur lequel j'espère qu'on se tient, et qui n'est que déséquilibre en puissance, c'est-à-dire on verse d'un côté ou de l'autre, mais donc c'est en tout cas ce qui me correspond le plus. Et la peur de donner une leçon est pour moi tout le temps là, quoi. À la fin d'une phrase, un mot qui se ferme un peu, hop, ah bah d'accord, le gars il sait ce qu'il dit. Je veux dire, il nous donne une leçon et voilà, on est devant quelqu'un qui sait. Et pour moi, non, je ne sais pas grand-chose. Je voudrais simplement partager des questions. Et donc que les choses restent activement questionnantes, quoi. Mais ce n'est pas facile de rester là, hein. C'est toujours, c'est jamais acquis.
Alors c'est pas facile et c'est d'autant plus précieux que vous co-signiez ce spectacle parce que vous êtes sur le plateau, Pierre Meunier, Marguerite Bordin, vous êtes, vous, hors plateau, vous les regardez, vous êtes aussi ce garde-fou, enfin, si je puis dire, ou ce garde-sérieux plus exactement.
Oui, c'est cette agence de forme, c'est important. Au départ, je devais être sur le plateau, puis très vite... On s'est rendu compte que c'était trop difficile. Voilà. Juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la légèreté, la gravité, il y a énormément d'humour dans le texte d'Hélène, de Babouyek. Et ça, c'est très important. Et je crois que Pierre et moi, on s'amuse beaucoup. Enfin, je veux dire, tout part de là, en fait, part d'une joie, d'un plaisir de l'invention, de l'expérimentation, de la prise de risque. Et je crois que la prise de risque, elle le prend aussi dans son travail d'écriture. Et puis nous, au plateau, et elle nous amuse beaucoup, elle nous met en joie. Et je crois que cette notion-là de partage avec le public, elle passe par là, elle passe par l'humour, elle passe par la joie d'être ensemble et de dire des choses sérieuses, pas forcément sérieusement, des choses graves avec légèreté. Enfin, et cette espèce de zone comme ça qui est propice à la rencontre très fortement qu'on essaye de mettre en place avec les gens. Voilà. Il y a des... Une étudiante, je me souviens, des Beaux-Arts de Nancy, qui nous disait c'est un spectacle, on ne se sent pas spectateur, on se sent observateur. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que je crois que, oui, moi, on est ensemble dans l'observation d'événements.
Oui, voilà. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle était observatrice, expérimentatrice. C'est-à-dire qu'elle participait à l'expérience.
Oui, parce que j'allais dire... L'observateur serait peut-être en dehors. Moi, j'ai la sensation qu'on est effectivement avec vous.
Elle était conviée à l'expérience et à en être partie prenante. Ouais. Et ça la troublait beaucoup.
Nous faisons partie de nous sommes des laborantins avec vous.
Voilà.
Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas,
oui.
Hier. Et ça, c'est très précieux. Et c'est, effectivement, il y a la communication est complète. Et peut-être pour finir là-dessus, j'ai pas envie de déflorer les choses pour celles et ceux qui vont découvrir le spectacle trop, mais est-ce que Babouillac a pu suivre les étapes de création ? Est-ce qu'elle a pu assister ?
Ah oui. Elle est venue à plusieurs reprises, peut-être 3 fois 10 jours, jusqu'à les jours précédant la première. Et c'était sa présence très précieuse, parce qu'elle a d'ailleurs pointé de plus en plus précisément des choses qu'elle voyait, des choses même qu'elle suggérait. Faisant presque à la fin des notes de mise en scène, hein, des suggestions comme ça. Oui. Mais ça nous a permis aussi de comme tu disais tout à l'heure, de valider en fait ce qu'on était en train d'inventer et qu'on n'était pas à côté de la plaque par rapport à elle. C'était quand même très important.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de plaques dans le spectacle.
Oui, oui, voilà.
C'est bien de ne pas être à côté complètement.
Ben oui, des plaques tournantes.
On peut rentrer dedans même.
Oui, oui. On peut être absorbé ou effacé. Mais donc voilà, et sa présence était toujours aussi tellement pleine, tellement entière, tellement que ça met la barre, je dirais, ça met la barre assez haut sur la nature de notre présence à nous sur le plateau. C'est-à-dire qu'on va pas s'en sortir avec des trucs de vieux renards de scène, quoi. Ça, c'est faut oublier, et il faut être absolument dans ce présent de l'expérience, telle qu'elle est, elle, telle qu'elle vit les choses aussi, avec une intensité incandescente, quoi. Donc, ça, c'est aussi très précieux comme exemple, je dirais, et comme compagnonnage humain, quoi. Voilà, c'est très gai aussi.
Je crois que c'est important de dire que dans ce spectacle, il n'y a pas d'acteur, en fait. Enfin, mis à part Pierre, qui l'est un peu, mais on travaille... les gens qui travaillent avec nous sont tous des créateurs. C'est très important pour nous. Voilà. C'est pas des gens qui rentrent dans un rôle, à qui on demande quelque chose de précis. On leur demande de venir inventer avec nous, créer. Donc, c'est Sachi Noro, qui est une danseuse circassienne qui fait ses propres projets de mise en scène. Il y a Jean-François Pauvros, qui est un guitariste improvisateur d'une grande renommée, et qui improvise et crée chaque soir un dispositif musical différent, donc très inspirant pour ses collaborateurs. Et Freddy Kunz, qui travaille avec nous depuis des années et qui est à la fois au départ qui est machiniste, qui a une présence scénique extraordinaire, qui joue, qui parle, qui lit des textes, qui est également metteur en scène. Enfin voilà, et c'est des gens qui rentrent et qui s'imprègnent avec nous, qui sont aussi également les créateurs de ce spectacle.
Merci à vous, Marguerite Borda, Pierre Meunier, Forbidden des Sports Jersey, jusqu'au 24 juillet à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Merci.
Eh bien, merci.
Merci à vous. Et je vais proposer à Gaëlle Bourges de venir maintenant vous succéder à ces micros. Merci beaucoup. Gaëlle Bourges qui poursuit dans un nouveau spectacle intitulé « À mon seul désir », un travail qu'elle a entrepris depuis un certain nombre d'années maintenant sur la question de la nudité et du regard qu'on porte sur elle dans l'histoire de l'art et dans l'histoire sociale. Il y a d'ailleurs eu plusieurs expositions récemment qui ont souhaité s'emparer de cette question. Qu'on pense à masculin, masculin au musée d'Orsay ou la toilette, l'essence de l'intime, c'était de l'exposition au musée Marmottan en Monet. Deux expositions d'ailleurs qui m'ont semblé plutôt passer à côté leur objectif. Parce que c'est pas si facile, évidemment, et vous le savez bien, Gaëlle Bourges. Avant de parler de « À mon seul désir », il faudrait peut-être revenir sur les premiers éléments du triptyque Vider Vénus, qu'est-ce qu'il s'agit là de traiter pour vous ?
Bien, littéralement, vider Vénus.
Voilà, vous annoncez la couleur clairement.
Question simple, réponse simple. Non, c'est ça, tout le monde voit, je crois, même si on a la radio, qui est Vénus. Et effectivement, c'est de la vider de son sens et voir ce qui reste. Donc effectivement, c'est un triptyque où patiemment, on tente de tout sortir.
Ça a commencé par quoi ?
C'est d'abord Je baise les yeux, la première pièce qui est une conférence démonstration sur la pratique du striptease. Et effectivement, si on file une métaphore entre le nu, l'abondance des nus féminins dans l'histoire de l'art et la représentation du nu féminin particulièrement comme éminemment érotique, le théâtre érotique, c'est vraiment le lieu où ce cliché est vivant. Et donc, Marianne Chargois, Alice Roland et moi-même avons travaillé, donc les personnes, les trois femmes sur le plateau, avons travaillé dans un même théâtre érotique. Et on a vraiment eu envie de déployer une pensée réflexive sur ce qu'on vivait au théâtre érotique. D'où le « Je baise les yeux ». En essayant de décortiquer effectivement ce qui est à l'œuvre pour nous de la grosse machine, voire machinerie hétérosexuelle formatée. Et c'est une façon de vider Vénus déjà, parce que voilà, on peut imaginer qu'on est des Vénus autour d'une pole dance en train de se déshabiller. Il y a quelque chose à l'œuvre comme ça. D'ailleurs, le caissier du lieu nous a appelé les modèles, comme en peinture.
Comme chez Bresson.
Comme chez Bresson, voilà. Je préfère Bresson au caissier, qui a toute mon amitié d'ailleurs s'il écoute. Mais... Ouais.
À mon seul désir, cette nouvelle création s'origine dans une œuvre célébrissime, mais aussi célèbre que mystérieuse, sans doute, La Dame à la licorne, qu'on peut voir au musée de Cluny à Paris, une tapisserie en six panneaux. Il y a longtemps qu'elle vous intriguait, cette tapisserie ?
En fait, je, à une certaine époque, j'habitais à côté du musée de Cluny, parce qu'elle est au musée de Cluny à Paris, vraiment en face de la Sorbonne. Et c'était le mois d'août, il faisait très chaud. C'était un été caniculaire.
Et il fait frais au musée. Mais
exactement. Je suis désolée de décevoir.
C'est une très bonne raison.
Et donc voilà, et comme j'avais une carte d'ANPE à l'époque, pour l'emploi aujourd'hui, je rentrais gratuitement. Donc en fait, j'allais m'asseoir, parce qu'à l'époque, c'était une ancienne configuration de visibilité. On pouvait s'asseoir, et je regrette beaucoup ça à la banquette. Ouais. Et donc je rentrais gratuitement, je m'asseyais au frais et je regardais la tapisserie longtemps. Et je venais tous les jours. À un moment donné, je venais tous les jours.
Et elle vous parlait ou vous vous racontiez des histoires sur elle à ce moment-là ?
Est-ce qu'une tapisserie parle ?
Là, on pourra dire qu'avec un bon seul désir, oui, mais on va y venir.
Oui, mais voilà, faut pas trop dire. Oui. C'est assez surprenant. Vous la connaissez personnellement, Arnaud ? Oui.
Très bien.
Très bien, en plus. Donc, elle vous parle.
Oui.
Vous.
Nous avons un dialogue.
Après, c'est vrai qu'on peut se dire la tapisserie, c'est vraiment un champ de l'art qui est peu connu, qui est moins aimé que la peinture, qui est peut-être vu même comme moins noble. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tapisseries au Moyen-Âge. Moi, j'étais jeune à l'époque, donc je n'étais pas très, très encline aux tapisseries, mais d'abord, c'est immense, ce sont des grandes tentures. Je sais si vous vous souvenez bien, ça fait, je ne sais pas, 3 sur 4 mètres certaines. Enfin, elles ne sont pas toutes les mêmes tailles. Et il y a une abondance, déjà, on ne comprend pas ce qu'on voit. Enfin, moi, ma perception, c'est qu'il y a une abondance de choses, beaucoup de fleurs et beaucoup d'animaux. Et on distingue qu'au bout d'un moment qu'il y a aussi des jeunes filles et une licorne et un lion. Donc, c'est... Même si on ne connaît pas très bien cette période du Moyen-Âge, donc c'est les années 1500, voilà, on reconnaît le lion, on reconnaît la licorne. Donc déjà, on s'amuse à reconnaître les animaux, puis les fleurs, parce qu'elles sont très bien faites. Il y a des roses, des œillets, des jacinthes, etc. Donc, et puis surtout, les jeunes filles et les animaux, d'ailleurs, ont un air très particulier. Ils sont comme... D'abord, il y a beaucoup d'espèces ennemies, voilà, lapins, renards. Et en fait, dans la tapisserie, ils sont... même dans un face-à-face, mais sans agressivité. Donc il y a une espèce d'état pacifié, comme ça, qui est très perceptible, je trouve. Et les jeunes filles sont comme absentes à elles-mêmes. C'est très troublant, en fait. Elles font quelque chose, en fait, elles montrent les cinq sens, plus un sixième, mystérieux.
On est bien.
Donc... Et donc c'est très clair ce qu'elle fait. Enfin, il y a donc une jeune fille principale qui est plus grande et une autre qui est peut-être sa servante ou sa suivante, on ne sait pas. Et donc voilà, pour le toucher, elle touche la corne de la licorne. Dans le goût, elle sent elle tisse une couronne d'œillets. Donc c'est très clair. Et en même temps, elle fait quelque chose sans y être vraiment. Et ça, quand il fait chaud et qu'il s'est climatisé, c'est pas mal.
Alors effectivement, on parle des sens, les cinq premiers, on prend. Mais il y a un sixième panneau. Dont le vrai titre est A majuscule point mon seul désir point I majuscule point. Là tout d'un coup les choses sont encore plus mystérieuses. Edbourge.
En fait les historiens de l'art ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. On ne sait pas très bien ce que c'est que cette sixième tapisserie. Effectivement il y a cette phrase en haut d'un pavillon bleu, une sorte de tente derrière la jeune fille. Au début, on a appelé la tapisserie d'abord « Mon seul désir », parce qu'on n'avait pas bien repéré, avec les techniques de l'époque, c'est Prosper Mérimée qui l'a redécouvert, qui a été en fait informé par Georges Sand, avec qui il était ami, voire plus. Et en fait, Georges Sand habitait le Berry, au château de Nohant, et elle avait des amis qui étaient un peu plus bas, dans la Creuse, pas très loin, au château de Boussac. Et elle est venue dormir. Une fois, il y avait une épidémie de grippe, je crois, à Nohant, et elle voulait échapper à l'épidémie. Donc, elle est venue dormir chez ses copains du château. Et en fait, les tapisseries étaient suspendues, on ne sait pas trop où. Mais, et donc, elle a dit à Prosper, viens donc, il y a un truc qui peut t'intéresser. Et donc, au début, il a tout fait pour les rapatrier et faire que l'État achète et soit conservé au musée de Cluny. Et donc au début, on voyait surtout mon seul désir. Donc on l'a longtemps baptisé mon seul désir. Puis on a vu le A d'abord, A point, mon seul désir. Donc on l'a appelé aussi A mon seul désir. Donc moi je me suis
voilà. C'est beau tout de même.
Voilà.
C'est un beau titre.
Beau titre. Enfin, moi j'ai rien fait. Hein, c'est le titre de la tapisserie. Et ensuite on a découvert derrière une cordelette tissée un I. Donc on pense peut-être que ce serait un cadeau de mariage pour un certain Antoine Leviste. Les Levistes étant les commanditaires de la tapisserie, et une Jacqueline, I étant le I majuscule Moyen-Âge pour J. Une Jacqueline, je ne sais plus comment, souvent l'histoire oublie le nom de famille des femmes. Voilà.
Comme par hasard. Ouais.
Donc voilà. Mais on ne sait pas très bien en fait ce que c'est. On ne sait même pas qui l'a tissé. Peut-être un certain Jean d'Ypres, qui serait le maître des très petites heures d'Anne de Bretagne. Donc, parce qu'on reconnaît son style sur les enluminures des livres des petites heures. Donc voilà, tout ça est très mystérieux.
Alors, ce spectacle, Mon seul désir, je n'ai pas tellement envie qu'on en parle davantage. Il s'agit vraiment ici d'être dans un moment d'introduction à... on pourrait dire que ce que vous venez de nous expliquer, Gaël Bourges, on va aussi le savoir. Ça va aussi nous être conté. Je pourrais dire, pour brouiller les pistes un peu, que ça pourrait être une sorte de son et lumière, finalement, à Mon seul désir.
Vous êtes en train de me dire que tout ce qu'on fait sur scène, ça ne sert à rien, en fait.
Ah non, alors, je me suis mal exprimée, sans doute, alors.
Son et lumière, Ça...
Non, mais vous savez, dans la grande tradition, avec des grandes voix qui nous racontent des choses que l'on voit s'incarner devant nous.
Un spectacle épique, il faut les
dire. Absolument, mais il y a de cela, non ?
Ouais.
Un épique minimal.
Ah, c'est jolie formule, bravo.
Je vais noter, alors.
Oui, pourquoi pas, c'est vrai. Enfin, en tout cas, l'épique, il m'échappe. Enfin, je veux dire, je n'ai pas du tout pensé la chose comme épique. Effectivement, à un moment donné, ça bascule dans une dimension peut-être épique, mais effectivement, minimale ou même minimaliste, parce que l'intention n'y est pas, en fait. Ce serait épique si vraiment on en rajoutait, si on jouait l'épopée. En fait, on fait des actions très précises, même quand ça devient un peu plus foisonnant. C'est très, très précis, les comptes sont très précis. Le son et lumière. Lumière, oui, parce que dans un musée, pour voir, il faut éclairer, tout simplement. La tapisserie, notamment, parce qu'elle ne peut pas être exposée à la lumière du jour. D'ailleurs, elle l'a été, elle a beaucoup passé. Le rouge est beaucoup plus rose maintenant. C'était rouge très vif, paraît-il, avant. Donc, effectivement, quand on rentre dans le musée de Cluny, il y a une pénombre très grande. Là, elle est éclairée par des LED. Donc, finalement, on voit assez peu. Donc, moi, j'ai voulu conserver ça. Et effectivement, si on s'approche et qu'on a envie de voir plus, on peut braquer la fonction lampe de poche de son iPhone, par exemple. Et là, on l'éclaire plus. Donc, il y a quelque chose comme ça dans le spectacle, en fait, entre pénombre et
instantané.
Et voilà, c'est ça. Mmh. Et presse, voilà. Fonction lampe torche de l'iPhone, quoi.
À ne surtout pas faire.
Surtout pas de publicité.
De toute façon, on sera abattu sans sommation par les gardiens du musée de Cluny si on le fait. Mais au-delà de ça, parce que c'est vrai que qu'est-ce que vous avez envie est-ce que vous avez envie que les spectateurs sachent quelque chose avant de découvrir votre spectacle, ou est-ce qu'il vaut mieux le vivre dans sa simplicité de proposition, parce que c'est un spectacle extrêmement accessible.
Oui. Les gens viennent comme ils... On va croire une pub pour McDonald's, donc ça va être terrible.
Venez comme vous êtes.
C'est horrible. Non, mais si on sait des choses, c'est bien. Si on sait rien, c'est bien aussi. Je pense qu'il y a... Ceux qui connaissent... Il y a une personne du musée de Cluny qui est venue voir à la première à Paris en décembre dernier. Et c'est vrai, quand on a appris qu'il venait, j'avais un peu le trac en me disant « Mon Dieu, mais il va trouver ça complètement iconoclaste » ou je ne sais pas trop quoi, d'ailleurs. Et en fait, il a trouvé ça très, très proche de ce que lui connaît, de la tapisserie. Parce qu'en fait, j'invente rien, en fait. Je pioche, je lis beaucoup de choses sur l'œuvre dont je traite. Et donc, du coup, je pique à Michel Pastoureau, à Elisabeth Delahaye. Enfin, voilà, donc je vais... Effectivement, j'essaie de respecter ce que les spécialistes ont dit. Donc, si on sait ça, ça va être amusant de voir ce que j'en fais ensuite. Puis, si on ne sait rien, on apprend. Moi, j'aime bien le fait... Enfin, comme moi, souvent, je ne sais rien. Quand j'ai découvert la tapisserie il y a une vingtaine d'années, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'aime bien me dire que, pour le coup, de faire la leçon. C'est exactement l'inverse de ce que vos invités d'avant ont dit. Mais j'aime bien le côté leçon de classe à l'école primaire. Chers enfants, cette tapisserie a été tissée dans... Voilà, pourquoi pas ? Je veux dire, c'est plutôt un partage de savoir, en fait. Ce que j'ai appris, je le transmets avec mes moyens, en fait.
Mais quand vous dites vous n'inventez rien, Gaëlle Bourges, vous mentez par omission, parce qu'il y a certes... Il y a l'avers, mais il y a le revers aussi de la tapisserie. Et il y a ce qu'on voit, ce que vous nous racontez, ce que vous nous apprenez, ce qu'on peut découvrir si on ne connaissait rien de cette tapisserie. Mais vous cherchez à voir, non pas au-delà, mais derrière.
Ouais. Mais on fait tous ça, non ? Voir derrière, je crois que c'est vraiment le sport favori des humains. D'où la presse people, d'ailleurs. Je veux dire, la presse people ne serait pas aussi... fructueuse si on ne cherchait pas à l'envers des choses. Et ce que je trouve drôle dans la tapisserie, ce que j'ai appris, c'est quand la tapisserie, cette tapisserie n'a pas d'envers. Vraiment, la technique de tissage qui a été utilisée pour la faire permet que le dos soit lisible comme la face. Ça, c'est quand même fort, non ? Donc, je m'amuse avec ça, c'est que finalement, il y a peut-être rien à l'envers, où tout est déjà dans l'endroit. Puisqu'on parle du monde chrétien, on parle de la virginité. C'est des histoires qu'on se raconte, tout ça. Vous comme moi.
Moi, je ne les raconte pas sur scène. Mais bon, dernier mot peut-être, Gaëlle Bourges, puisque, alors, singulièrement, cette édition 2015, peut-être, n'a jamais autant montré de corps dénudés. Extrême présence de la nudité sur les plateaux. On fera le compte des spectacles pour celles et ceux qui ont vu tout le in. Alors, chez vous, c'est une... on dirait que c'est un point de départ et un point d'arrivée. Enfin, et quand il s'agit de vider Vénus, bah, il s'agit peut-être de la voir, Vénus. Mais paradoxalement, on pourrait dire que les corps nus les moins érotisés se trouvent aussi chez vous, parce que c'est une nudité qui, ontologique, une nudité qui va de soi. On n'est pas nu puisqu'on est déjà nu, et donc on n'est toujours pas nu.
Ouais. Ça, c'est une phrase de Jean-Luc Godard que je cite dans le spectacle que j'ai glané dans son dernier film, « L'adieu au langage ». C'est une phrase que lui-même qu'il a piquée à quelqu'un d'autre, il ne sait plus qui d'ailleurs.
Oui, il pique beaucoup, oui. Il cite beaucoup Jean-Luc Godard.
Voilà. Et bah déjà, Vénus, elle est nue dans la peinture. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est Vénus qu'on peut la représenter nue. Et puis, je dirais qu'il y a la nudité, ça n'existe pas, la nudité. Il y a plein de façons d'être nue et il y a plein de régimes esthétiques et politiques du nu. Il y a des nus conservateurs, il y a des nus réactionnaires, il y a des nus révolutionnaires. Enfin, pas chez nous, mais par exemple, je pense à des spectacles dans les années 70... De ce qu'on a appelé la post-modern dance américaine, où par exemple il dansait nu avec, je crois que c'était, là je veux dire des bêtises, je sais pas, c'est pas Trisha Brown, c'est une autre qui dansait nu avec le drapeau du Vietnam autour du cou, par exemple, à l'époque de la guerre du Vietnam. Donc ça, c'était des nudités très fortes. Où je pense à Sigalit Lando, une plasticienne qui fait du hula hoop nu à la frontière palestinienne. Donc voilà, il y a vraiment, donc quand on dit la nudité, ça veut rien dire en fait. C'est pas pour vous dire que c'est mal ce que vous dites, mais
non, je viens de dire ça, qu'il y avait plein de nudités différentes.
J'adore faire des leçons de toute façon.
D'accord, je note.
Mais du coup, effectivement, là, pour moi, l'érotisme, il vient du regard du spectateur. De toute façon, c'est évidemment que on peut tous enclencher le désir de l'autre. On sait comment faire. À partir d'un certain âge, assez rapidement dans nos vies, on sait comment enclencher le désir de l'autre. Donc si on sait ne pas l'enclencher, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'on est juste nu. Donc finalement, peut-être qu'on n'est plus nu. C'est aussi une... Il y a quand même, enfin, vous le savez bien, on le sait tous, il y a quand même des pays où on vit beaucoup plus dénudé aussi. C'est une habitude sociale, très ancienne maintenant, d'être habillé. Mais je pense que si on était tous plus dénudés... peut-être que finalement, le grand buzz d'un festival, ce serait que les gens soient habillés sur un plateau. Et ce serait l'inverse. Il y a quand même beaucoup de gens habillés. Il faudrait décompter le nombre de gens habillés sur les plateaux. Mais c'est vrai que j'entendais deux dames au spectacle d'Olivier Py qui disaient, justement, qui étaient très mécontentes, disant « Oh, tous ces gens à poil sur les plateaux, il y en a marre !» On a beaucoup rigolé, mon administrateur et moi-même, qui... C'est drôle parce qu'il y a toujours un choc. Et on pourrait imaginer l'inverse. Oh, tous ces gens habillés, c'est insupportable.
Je crois qu'on
y
vient,
moi. Parce qu'en plus, on est toujours, des fois, on est mal habillé, ça manque. Enfin, je sais pas, on est mal assorti, ça nous va mal, ça nous grossit, ça nous amaigrit. Enfin, c'est tout ça poil, peut-être.
Je crois que le prochain scandale, c'est le vêtement. Mais écoutez, on en parlera peut-être dans une édition future. Merci beaucoup, Gaëlle Bourges. À mon seul désir jusqu'au 21 juillet au gymnase du lycée Saint-Joseph. Ha ha ha.